Vous écoutez IDFM, il est minuit.
Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles. Du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique.
Yeah, bonsoir les petits loups. Je suis très heureuse de vous recevoir en cette énième émission d'étincelles. Et j'ai l'honneur d'accueillir une autre étincelle qui, elle, carrément, est alchimiste. Alchimiste de l'esprit, alchimiste spirituel, mais qui vous permet d'avoir les pieds sur terre. Tout en vous envolant et de vos propres ailes, vous devenez un papillon. Transformez ce qui vous plombe en trésor. C'est un livre qu'elle a écrit. Elle s'appelle Charlotte de Sigui. Elle est avec nous en ligne. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Angélique.
Alors, je précise que ton livre « Transformez ce qui vous plombe en trésor », vos blessures sont la clé de votre destinée, c'est paru chez le Lotus et l'éléphant. Et donc, toi, tu parles d'un postulat très précis que c'est l'ombre qui nous amène à la lumière. Donc, on va développer tout ça. Tu as fait un livre absolument magnifique avec une méthode. Tu es coach. Et justement, j'aimerais pour nos auditeurs qui, c'est la première fois qu'ils t'entendent dans cette émission, l'émission étincelle, tu vois, tu en fais, tu aides les autres à devenir des petites étincelles, ce qui est aussi le but de cette émission. Comment tu pourrais te présenter, Charlotte de Sigui?
C'est une chercheuse d'or. En fait, comment je me présente? J'ai envie de me présenter de là où je viens parce que j'ai une quête qui a duré très longtemps. Une quête qui a commencé quand j'étais très petite. Je comprenais pas le sens de la vie. Et surtout, je comprenais pas le sens des souffrances qu'on trouvait sur la terre, que je voyais dans ma famille autour de moi. J'avais un grand frère handicapé, je voyais bien qu'il y avait des gens qui n'allaient pas, je voyais ce qui se passait sur la planète. Et j'étais complètement hébétée par les souffrances et les calamités qu'on trouvait sur la terre. Et je trouvais que la vie n'avait pas de sens. Et donc, un jour, je me suis dit, ça ne sert à rien de vivre, autant mourir, en fait. J'étais préado.
Tu avais quel âge?
J'avais préado, enfin j'avais 14 ans, un truc comme ça.
Oui, tu étais bien ado déjà. Hein.
Ouais. Et je voulais mourir, en fait, parce que je ne voyais pas à quoi tout ça rimait. Et puis un jour, je me suis dit que c'était idiot de mourir sans avoir compris le sens de la vie, et que si on était là, c'est qu'il devait y avoir une raison précise. J'étais quelqu'un d'extrêmement logique, en fait. Et je me disais, si on est là, c'est pas un hasard. C'est qu'il devait y avoir quelque chose à faire, quelque chose à comprendre. Tout. Et je pensais que la vie avait une raison d'être. C'était pas un hasard si on était là. Et donc, je me suis dit, ben, plutôt que de maudire les épreuves et les choses pas faciles qu'on voyait partout sur la Terre, je me suis dit, ben, essayons de comprendre le sens de ces épreuves, parce que si la vie semble ne pas avoir de sens, c'est à cause de ces calamités. Donc, autant essayer de comprendre le sens des calamités. Et c'était un peu l'origine de ma quête.
Et surtout, tu es née dans une famille où apparemment il y avait un problème de santé qui était impossible à gérer et que tu étais obligée de petite subir, j'imagine, et de faire avec et de t'adapter sur une différence pour ton frère.
Oui, alors effectivement, ça a été un ingrédient clé de ma vie, très modélisante dans ma structure psychique et dans ma vision du monde. Oui. C'est la présence à mes côtés d'un grand frère très lourdement handicapé, qui ne marchait pas, ses membres ne fonctionnaient pas.
D'accord. Il avait ça à la naissance ou c'était arrivé au fur et à mesure?
C'était un accident de naissance, on va dire.
D'accord. Mmh.
Il parlait très mal avec des très grosses difficultés d'élocution et on va dire une intelligence différente. Hein. Moi, je pense que c'était une forme d'autisme.
Il était dans sa bulle.
Voilà, c'était bon. Il avait une intelligence différente, comme ça arrive parfois. C'est un peu si pour les auditeurs qui connaissent le film Rain Man,
oui.
Où ben voilà, pour à part certains aspects, la personne peut paraître simple et parfois très simple, mais en même temps c'est vraiment très agréable parfois parce que ça ramène à des fondamentaux, vraiment des choses très basiques. et en même temps par d'autres moments d'une sagesse incroyable, d'une intelligence, des situations incroyables et une mémoire incroyable.
Donc une humanité profonde aussi en même temps, mais
absolument
pas la possibilité de la communiquer de manière fluide hein, sur l'extérieur.
Voilà, donc ça a été un des ingrédients clés. Pas le seul, mais disons que c'est pas anodin de vivre aux côtés d'un être qui est comme ça pour plein de raisons.
Vous aviez combien d'écart? Enfin, il est toujours en vie, ton grand frère?
Hélas, il est parti il y a un an et demi, deux ans. Ça va faire deux ans, là, bientôt.
Toutes mes condoléances.
Voilà, ben, merci. Et ça a été... Ça a été un des aspects très forts de ma vie, parce que quand on est à côté d'un frère handicapé, d'une part, on a envie de chercher le génie derrière le handicap.
Oui.
Et d'autre part, soi-même, on est un peu dans l'ombre, parce qu'il devient le focus.
Est-ce que dans ces cas-là, on peut dire que même en étant assise à côté de lui, tu te remplissais d'amour?
Vraisemblablement, il y avait une partie de ça. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui était, je crois, très en désespoir de pas être au premier plan pour recevoir l'attention de mes parents, parce que c'est lui qui captait toute l'attention. Et donc, je ne pouvais pas lui en vouloir, je ne pouvais pas me plaindre, parce que s'il y en avait un qui était à plaindre, ben, c'était pas moi, c'était lui. Et donc, c'était modélisant aussi pour moi, dans ma façon de percevoir le monde, parce que dans ma compréhension, c'est le handicap qui est digne d'intérêt. Et moi-même, qui ne suis pas handicapée, je ne suis absolument pas intéressante. Donc ça a créé des distorsions.
Ah oui, c'est un petit peu c'est un peu particulier. Donc quand tu sous-titres ton livre « Transformer ce qui vous plombe en trésor », ça veut dire que tu as dû puiser en toi-même pour t'affirmer?
Oui, carrément.
Et je vais un peu plus loin. Vos blessures sont la clé de votre destinée, mais c'était aussi, j'allais dire, un choix d'incarnation, puisqu'il paraît qu'on choisit avant de naître. Je ne sais pas ce que tu penses de ce concept-là. Mm-hmm. Peut-être que je t'entraîne sur un terrain un peu glissant pour toi.
Ah, mais j'adore glisser, moi.
Alors, glissons ensemble. Donc, tu as une blessure, ce qui est le postulat de départ. Mais de toute façon, tu n'as pas l'apanage des blessures. Tu t'en es bien rendu compte puisque tu t'es dit, il y en a beaucoup autour de moi. Franchement, je vois pas l'intérêt en quoi moi je vais m'épanouir et être là. Et c'est bien cela. Et finalement, tu t'es dit, je vais quand même trouver ma place.
Oui, je crois que c'est le lot de chacun. En tout cas, chaque personne qui se pose des questions et vraisemblablement parmi les personnes qui nous écoutent là maintenant. On se pose des questions sur le sens de la vie, le sens de nos déboires. Et donc moi, très tôt, je me suis posé la question du sens de la vie et je prétends pas avoir trouvé toutes les réponses. Néanmoins, cette quête très intense m'a invité à explorer dans beaucoup d'endroits différents sur la planète, au bout du monde, dans les bouquins, dans les stages et dans les mystères clés de l'humanité, de différentes cultures. Et je pense que, à force de chercher, on finit par trouver des réponses qui sont pour certaines très logiques, voire carrément mathématiques, et puis pour d'autres plus ésotériques, plus dans l'invisible, la transcendance et la spiritualité. Et ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'est que les récoltes sur mon chemin, elles se corroboraient entre elles, c'est-à-dire qu'il y avait des similitudes dans mes découvertes, que ce soit mes introspections personnelles, que ce soit les livres que je bouquinais, que ce soit les sagesses anciennes, les formations sur un plan spirituel, très dans le domaine du sensible et de l'émotionnel, hein, de la connaissance de l'âme, et de la science, et notamment cette science incroyablement fascinante, ce qu'on appelle physique quantique, qui donne des clés du fonctionnement des coulisses invisibles de l'univers et de notre réalité à chacun.
D'accord.
Et tout ça se rejoignait.
Alors, je vais juste t'interrompre. Tu es au courant de ce prix Nobel qui a félicité, je sais plus qui c'est honteux, mais qui a travaillé sur les principes de l'enchevêtrement quantique.
L'intrication, oui.
L'intrication, c'est la même chose, intrication, enchevêtrement, sur les particules qui sont ensemble, qui vont de concert, même si elles s'éloignent dans l'univers et qu'elles sont à des distances infinies, elles sont corrélées. C'est intéressant.
Oui. Oui, ça fait partie des choses assez troublantes quand on, qui explique peut-être les phénomènes de télépathie, entre autres. On est tous reliés, en fait, on est tous connectés par des fils invisibles, même si on est très différents et qu'a priori on est séparés les uns des autres, il y a quand même quelque chose qui nous relie, et c'est justement une des choses qui m'ont le plus fascinée dans les découvertes que j'ai faites dans ces sagesses anciennes. Voilà, oui. Les sagesses anciennes, c'est le socle pour moi, ça a été le taoïsme, parce que très tôt, je suis partie en Chine.
On va en parler. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit précédemment sur la télépathie. Moi, j'ai un jeu et je ne m'en lasse pas. Ça fait des années, je suis vraiment gamine, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le jeu de la boîte aux lettres. Quand quelqu'un va poster une lettre et qu'il pense à moi, je pense à la personne. Et le grand jeu, c'est un ou deux jours après, ou trois jours après, de voir ce qu'il y a dans ma boîte aux lettres et ça correspond.
Oui, c'est assez fréquent, ouais. C'est parfois très, très troublant, d'ailleurs.
Ou quand tu téléphones à quelqu'un qui dit, je comprends pas, j'avais ta messagerie. C'est arrivé tout à l'heure avec une consoeur qui est médium aussi. Et, parce que je le suis. Et donc, j'ai dit, c'est normal, j'étais en train de t'appeler. Donc, on s'appelait mutuellement sans le savoir.
Oui, ça explique ce genre de choses. Et comme, nous, on est soumis à l'espace-temps, mais que, dans d'autres dimensions, il n'y a pas forcément d'espace-temps, ça peut aussi expliquer les perceptions
instantanées
du futur, mm-hmm, ou du passé, ou de ce qui se passe dans une pièce, parce que tout est déjà là.
Alors, du coup, j'ai une question qui va déborder sur ton livre, mais on va revenir à ton livre. Est-ce que tu connais les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet?
Oui.
Ah, c'est intéressant, ça.
Le double éthérique.
Le double éthérique, et qu'est-ce que tu veux en parler?
Oh, je serais bien incapable, je préfère le laisser en parler. Je crois qu'il y a plusieurs manières d'évoquer ce double éthérique qu'on peut appeler son alter ego de l'autre côté du miroir, qu'on peut appeler son enfant intérieur, qu'on peut appeler son ange gardien, qu'on peut appeler son âme ou un guide. Je pense que chacun, avec sa culture, aura envie de l'appeler comme il veut. Là, d'accord, c'est vraiment intéressant.
Est-ce que c'est pas simplement son double personnel, hein, parce qu'il dit qu'on en a trois, en fait, qu'on est trois?
Ah, c'est possible. C'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut pressentir intuitivement ou qui est dit dans des sagesses ou des spiritualités ancestrales, là, il le prouve avec la science. Et c'est ça qui est magique. C'est que ça se rejoint.
Et il a quand même eu un prix du calcul de la vitesse de la lumière. Il dit que c'est, je crois, le nombre de rotations de la Terre autour du Soleil, un truc comme ça. Et il a eu un prix scientifique pour ça. Seulement, du coup, ça explique plein de choses en spiritualité ou en médiumnité. Et il est très malheureux. Enfin, à un moment donné, il était très malheureux parce qu'il essayait d'attirer les scientifiques et en fait, il récupérait tous les médiums dans ses salles.
Oui, forcément, il attirait ça lui-même. Ouais. Et puis les scientifiques, quand on a un esprit rationnel, heureusement qu'on a des magnifiques intelligences qui font des découvertes scientifiques majeures. Et ce qui est super, c'est quand ceux-là s'ouvrent aussi à des choses un peu plus irrationnelles qu'ils ne savent pas encore prouver.
Alors, tu as plongé un petit peu dans l'inconscient collectif, avec notamment Carl Gustav Jung.
Oui.
Que tu as cité au tout début de ton ouvrage.
Oui, et puis je le cite régulièrement aussi dans le livre, parce que pour moi, c'est un initié qui avait compris beaucoup de choses, mm-hmm, qui n'a pas été compris, je pense, à sa juste valeur à l'époque où il œuvrait. Mais en gros, pour rejoindre un peu mon propos, en fait, moi, je n'ai rien inventé, hein, je me suis contentée de faire des liens avec plein de sagesse, plein de contes et légendes, plein de mythes, la science, des citations, en tout cas des travaux plus récents de Jung ou d'autres. Et ce cher Carl Gustav Jung, il dit, les crises, les bouleversements et la maladie n'arrivent pas par hasard. Mm-hmm. Ils nous servent d'indicateur pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter de nouveaux chemins de vie. En fait, lui, il dit, ce que dit le taoïsme, ce que dit plein de sagesse, c'est que les ombres, hein, en fait, ce qui n'est pas très agréable, c'est pas là par hasard, ça advient dans un but précis pour nous propulser vers autre chose. Alors, on peut dire, une épreuve, ça nous rend plus fort, ça contribue à notre élévation de conscience, parfois même, ça crée des bifurcations dans notre vie vers du mieux pour nous. Mais ce qu'il dit, ça rejoint les alchimistes et ça rejoint le taoïsme. Hein. Jung était très intéressé par la civilisation chinoise et le taoïsme.
Oui, justement, on va en parler, on va faire une pause musicale si tu veux bien,
ouais.
Parce que c'est passionnant, mais nous sommes sur IDFM Radio, nous écoutons aussi de la musique. Et je rappelle que tu es notre invitée ce soir dans l'émission Étincelle. Charlotte de Silgui, tu as écrit « Transformer ce qui vous plombe en trésor, vos blessures sont la clé de votre destinée ». C'est paru chez le Lotus et l'Éléphant. C'est un superbe ouvrage. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, c'est l'émission Étincelle avec Angélique. Et nous écoutons David Guetta et Bébé Rexha, « I'm good ».
Fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good.
D'écouter Bébé Rexha et David Guetta, I'm good sur IDFM Radio 98 FM. Nous sommes dans l'émission Étincelle et nous retrouvons Charlotte de Silgui, auteure de Transformer ce qui vous plombe en trésor. Nous sommes sur IDFM 98 FM et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Charlotte, je t'ai interrompue tout à l'heure, tu étais en train de partir sur le taoïsme. Alors du coup, je te relance sur ce sujet-là, puisque Jung aussi s'était intéressé au taoïsme. Parce que tu dis que tu fais des liens avec les sagesses anciennes et tu es partie du taoïsme.
Oui, au départ, en fait, c'était suite à plein de synchronicités dans ma vie. Quand j'avais 17 ans, je suis partie très tôt en Chine pour apprendre le chinois et découvrir la culture chinoise.
Wow.
J'avais besoin de choses très, très différentes de là où j'étais.
C'est quand même complexe, apprendre du chinois.
Ah ben...
C'est des kanji, c'est ça? C'est des images?
J'ai eu beaucoup de facilité. Je pense que j'avais une vie antérieure en Chine.
Ah, une petite chinoise.
Non, pour moi, ça a été très, très facile d'apprendre le chinois. J'ai aucun mérite, franchement. Écrire, parler, lire, ça s'est fait vraiment les doigts dans le nez. Je crois que j'avais une mémoire qui me facilitait la vie. Comme Alice au Pays des Merveilles, hein, j'ai suivi mon petit lapin blanc qui m'emmenait là. Et j'avais plein d'ancêtres qui étaient partis en Chine. Plein d'ancêtres, on va dire 4 ou 5, dans mes ascendants, grands-parents, arrière-grands-parents.
C'est beaucoup déjà.
Donc je pense que c'était inscrit dans mes gènes, hein, quelque part. Même si je n'ai pas d'ancêtres asiatiques, j'ai des ancêtres qui ont vécu en Chine et en Indochine. Bref.
Et pour le taoïsme, alors?
Alors, c'est évidemment, il y a plein de manières de lire le taoïsme et ça serait très prétentieux d'en faire une synthèse en 3 minutes. Donc je vais juste
tel que tu le perçois.
Pardon?
Tel que tu le perçois.
Voilà, un des prismes du taoïsme et qui était très très précieux sur mon chemin, c'est l'origine de l'homme en fait. Et
c'est bon, on a une heure, tu peux y aller.
Pardon?
Tu as une heure, on peut y aller sur l'origine. Alors au début était le Big Bang.
Oui, alors quelque part,
c'est pas faux.
Effectivement, ce que dit le Tao, c'est que au départ, il y a un vide, un immense vacuité, hein, l'infini vacuité, et que en fait, ce vide n'est pas totalement vide. Dedans, il y a une conscience cosmique, on va dire une grande lumière. C'est ce que dit la physique quantique aussi.
Hein, est-ce qu'on pourrait dire que c'est Dieu?
Vide, c'est de la lumière.
On pourrait dire que c'est Dieu?
Alors, certaines personnes vont avoir envie de l'appeler Dieu, d'autres personnes n'auront pas envie de l'appeler comme ça. Donc, chacun va l'appeler comme il le souhaite. Moi, je vous dis ce que disent les taoïstes, c'est l'infini vacuité, l'innommable, dans le sens où c'est tellement gigantesque et tellement incompréhensible pour l'âme humaine, comme le disent aussi les Hébreux hein, dans la Kabbale, qu'on ne peut pas le nommer.
Alors, on peut pas le nommer, mais tu regardes aussi chez les musulmans au niveau du Coran, on ne l'imagine pas, on ne donne pas une forme.
C'est ça. D'ailleurs, il y a même pas le droit de le faire théoriquement dans certaines cultures.
Exactement.
Mais c'est pas tellement qu'on n'a pas le droit, c'est que notre mental est incapable d'appréhender sa dimension ou ses dimensions. C'est plutôt ça qui est dit. C'est pas qu'il n'y a pas le droit, c'est que ce n'est pas possible.
Regarde, oui, ça, je comprends mieux sous cet angle-là. Mais ça veut dire qu'on en a un petit bout en nous aussi, automatiquement.
Ah, voilà. Alors, c'est justement le grand sujet. C'est que cette conscience cosmique, comme il est dit dans le Tao, elle cherche à se connaître. Et pour se connaître, elle décide de s'expérimenter, de faire des expériences.
Et c'est pour ça que tu as fait une fleur de vie, parce que c'est le cercle qui cherche à se connaître lui-même.
Alors, on peut le dire comme ça, effectivement, c'est un beau symbole.
Alors, je suis partie parce que c'est le symbole qui est sur la couverture de ton livre, et ça me renvoie au livre de Melchisedec, je ne sais plus comment il s'appelle, Ravalo Melchisedec, L'ancien secret de la fleur de vie, où dans le tome 2, il explique justement comment la conscience de l'univers essaye de se connaître elle-même. Donc, c'est là-dessus que tu pars.
Exactement.
Okay.
Exactement. Et donc, cette conscience cosmique a trouvé un moyen très futé pour se connaître. C'est en se confrontant à l'adversus en latin, c'est-à-dire l'inverse, qui a donné adversaire. Hein. Mais en fait, au départ, c'est l'inverse, par son opposé. Et donc, pour cette lumière, l'opposé de la lumière, c'est, pour les scientifiques, c'est la matière.
D'accord.
L'opposé de la lumière pour les philosophes ou les spiritualistes, c'est l'ombre.
Alors, oui. c'est, ça m'explique aussi pourquoi tu as eu une préface de Frédéric Lenoir.
Oui.
Excuse-moi de rebondir là-dessus, comment tu l'as rencontré ?
Alors, je n'ai pas rencontré Frédéric Lenoir, on m'a communiqué essentiellement par mail. Mm-hmm. C'est un ami d'amis, en fait. Mon compagnon a créé des musiques zen, de méditation, etc., qui s'appelle Origins, il y a 25-30 ans.
Mm-hmm.
Et donc, c'est des musiques zen, des musiques de méditation.
Qu'on peut trouver sur Internet, j'imagine ?
Pardon ?
On peut les trouver sur Internet ?
Oui, bien sûr. Ça s'appelle Origins Musique. Et c'est que de la musique de méditation, de relaxation. Il a même fait un truc qui s'appelle Musique Source.
Mm-hmm.
Et qui est un canal de musique totalement gratuite, que de la musique zen, de méditation, de musique de massage.
Parfait pour les thérapeutes ou pour ceux qui veulent méditer.
Exactement. Voilà. Et puis donc, un de ces musiciens, qui est donc édité chez lui, a fait des disques méditation avec Frédéric Lenoir, et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et comme il est très positif, très bienveillant, il s'est porté volontaire, il a accepté tout de suite.
Alors, en fait, oui, quand je lui ai envoyé mon synopsis du livre, il était à peine écrit le livre, quand je lui ai demandé s'il voulait bien faire quand je lui ai demandé s'il voulait bien faire la dédicace, il a dit oui tout de suite parce qu'il était lui-même en train d'écrire son livre qui est sorti entre-temps sur Jung,
mm-hmm.
Qui évoque justement les ombres et les lumières.
Bah, ça tombait bien. Revenons à la lumière et à l'ombre. Tu étais en train de nous expliquer ce concept qui est repris par les philosophes. Qu'est-ce que tu avais envie de nous préciser sur ce sujet ?
Alors, c'est un point hyper important parce que c'est la clé de compréhension, en fait, de nos épreuves et du sens de notre vie. C'est super important parce que c'est vraiment la clé du décryptage du sens de nos épreuves et la clé aussi du sens de la vie. Et donc, cette lumière immense qu'on ne peut nommer va chercher à se connaître en s'expérimentant par son inverse. Et son inverse, c'est à la fois la matière et l'ombre. Donc, cette lumière va se subdiviser en d'innombrables parcelles de lumière qu'on pourrait appeler des âmes.
Mmh.
Et ces âmes vont éprouver, dès leur arrivée dans la matière, vont s'entacher avec des ombres. Et ces ombres, c'est quoi ? Ben, on peut appeler ça nos petits démons personnels, mais qui nous viennent biocellulairement de nos ancêtres.
Oui.
Par les spermatozoïdes et
c'est ce qu'on retrouve dans la psychogénéalogie.
Absolument.
C'est ce qu'on retrouve dans la numérologie avec le chiffre défi des ancêtres.
Absolument. Et là, en fait, c'est très la mémoire cellulaire, en fait, qui nous est transmise dans notre ADN. On nous transmet, en fait, l'histoire et la mémoire de ce qui s'est passé, de ce qui s'est imprimé dans l'histoire de nos grands-parents.
D'accord.
Et ça a aussi une incidence transgénérationnelle, pas que dans la matière, mais dans l'émotionnel, parce que nos parents, ben, ils ont reçu des blessures, des dysfonctionnements, des quiproquos, des maladresses de leurs parents, de leurs grands-parents, des croyances, etc., ce qui font qu'ils reproduisent aussi émotionnellement sur leurs enfants. Donc, on est pris en fait entre la matière et l'esprit.
Alors, c'est ce que tu dis dans ton livre « Transformer ce qui vous plombe en trésor ». Quand tu es sur le passage « Transmuter l'ombre en lumière, identifier ses talents et ses moteurs », et il y a une phrase magnifique qui s'intègre parfaitement dans le livre à ce moment-là, elle est de Boris Cyrulnik. La réussite n'est pas toujours une preuve d'épanouissement, elle est souvent même le bénéfice secondaire d'une souffrance cachée.
Bien sûr. Alors, c'est justement ça qui se passe et qui est vraiment le moule familial. En fait, notre âme, disent les taoïstes, choisit ses parents pour arriver dans un moule qui correspond à la destinée qu'elle a choisi d'expérimenter.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a un livre qui s'appelle toujours du lotus et l'éléphant. Franchement, ils ont fait très fort ces derniers temps, qui s'appelle « Suis ton âme, elle connaît le chemin ».
Oui.
Donc, il paraît que, je sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, il est génial, je te le recommande, je vous le recommande à tous. Ça veut dire que ton âme et toi, vous avez planifié votre arrivée, vous avez choisi un certain nombre d'événements à vivre en bon comme en mauvais pour développer justement ce côté lumière.
Exactement.
Tout se recoupe. Je t'interromps encore une fois, excuse-moi, mais tu vois, Tristan Balgueri, là aussi, avec qui nous venons de faire une émission, il parle justement de la du chemin de vie qu'on doit développer, qui est en fait la peur que nous avons eue quand nous étions en petite enfance, et qui en fait qui nous amène à nous obliger à nous dépasser pour réussir notre vie. On arrive toujours sur ces mêmes thématiques finalement.
Bien souvent. C'est comment on rebondit, c'est la résilience hein, de Boris Cyrulnik. Mais là, la chance que j'ai eue, si tu veux, ce que j'ai trouvé en explorant ces sagesses anciennes, c'est que on se tricote nous-mêmes, plutôt, on arrive exprès dans un moule où on va souffrir, ou qui vont créer des distorsions, ou des croyances limitantes, où il y aura des quiproquos, des blessures émotionnelles, et c'est exprès. C'est exprès parce que ce sont ces blessures-là qui vont être le tremplin pour qu'on accomplisse notre destinée. Et j'ai eu la chance de trouver la clé de décryptage qui permet de prendre ce qu'est notre destinée en fonction de ce qu'on a traversé comme blessure.
Alors, mais ça veut dire que ça ne nous évite pas qu'on ait des autres blessures par la suite?
Bien souvent, quand on est adulte, les problèmes qu'on rencontre, que ce soit dans notre vie perso, pro ou même dans la société, hein, mm-hmm. tout ce qui nous tombe dessus, qui est terrible à vivre, oui. par exemple la crise du Covid, hein, oui. pourquoi pas, ou, mm-hmm. ou d'autres choses comme ça, ce sont des reflets, des répétitions de blessures qu'on a déjà en nous et qui se répètent.
Mais là, c'est parfait, c'est parfaitement la même chose que la psychogénéalogie, où tu prends je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ça en fait partie, où tu prends une problématique et à partir de la problématique, tu vas la remonter, tu vas comprendre l'origine.
Voilà.
Tu fais la même chose.
C'est exactement ça. En fait, le schéma de fonctionnement, si tu veux, il est assez simple. Je vais prendre un exemple concret pour que ce soit très parlant.
Oui.
Imaginons oui. que moi, je suis une petite âme et je décide d'expérimenter la notion de liberté et de libération. Eh bien, pour que je puisse aller dans ma voie d'incarnation, ma mission de vie, mm-hmm. il est nécessaire que je désire éperdument œuvrer à ça.
Donc, tu seras bloquée quand tu seras plus jeune, c'est ça?
C'est ça. C'est-à-dire que pour œuvrer à la liberté, il faut que je le veuille éperdument. Est-ce qu'on veut éperdument ce qu'on a déjà?
Non. Ben non, voilà. Mais quand donc, tu as déjà quelque chose, ça va te permettre d'aller plus loin et d'aller explorer de nouveaux terrains et d'être créatif et de proposer des solutions différentes et originales auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que justement, tu n'as pas besoin de te confronter, mais tu as le temps pour pouvoir transmettre une information.
Alors peut-être, mais dans les lois lignantes de l'univers dans le taoïsme, l'idée, c'est que pour se mettre en quête de quelque chose, ça sous-entend qu'on l'a pas.
Donc, dès qu'on est vivant, on a des galères, quoi. En gros, c'est ça.
Ah ben, c'est ce qui nous propulse. Après, on n'est pas obligé de les répéter. Si elles se répètent, je vais y venir. Hein. Je vais y aller progressivement
Alors, justement, dans ta progression, je vais juste faire une petite pause musicale parce que d'accord. nous sommes sur IDFM Radio 98 FM. On est écouté en DAB+, sur toute l'Île-de-France. 12 millions d'auditeurs, quand même. Sur IDFM Radio et on nous écoute aussi sur Internet. www.idfm98.fr. Nous sommes avec notre invitée Charlotte de Silgui qui a écrit Transformer ce qui vous plombe en trésor paru chez le Lotus et l'éléphant et nous faisons une petite pause musicale. Et nous écoutons Vincent Niclot avec Amazing Grace. Nous venons d'écouter Amazing Grace, chantée par Vincent Niclot. Et nous retrouvons Charlotte de Silgui, qui nous parle des blessures, comment on transforme les blessures de naissance. Et justement, tu allais nous donner un exemple, hein, juste avant la pause musicale. De quoi s'agit-il, Charlotte?
Oui, alors prenons comme hypothèse que mon âme cherche à œuvrer à la notion de liberté et de libération. Donc pour ça, il faut que je me dote des outils pour être dans cette voie d'accomplissement-là. Mmh. Et donc, je vais avoir besoin de créer des quêtes, hein, des désirs très forts d'y aller, et puis pourquoi pas aussi des habiletés pour œuvrer à ça. Et donc, le meilleur moyen de l'avoir, comme c'est dit dans le Tao, c'est d'avoir l'inverse d'abord. Ou d'être privé de la chose, qui peut revenir à peu près à la même chose. C'est-à-dire que pour œuvrer à la liberté et à la libération, il faut que préalablement j'en sois privé. C'est-à-dire que je sois victime, quelle qu'en soit la manière, d'une forme de non-liberté, qu'on peut appeler enfermement psychique, physique ou autre. Et ça va créer en moi un élan latent pour qui peut être parfois très vif, pour œuvrer à la liberté.
Là, d'accord. Mais tu vois, par exemple, il y en a qui disent que pour développer la compassion, par exemple, on ne peut arriver à la on ne peut arriver à la compassion que par la souffrance. C'est la seule chose qui permet d'ouvrir le canal du cœur.
Alors, je ne sais pas si c'est la seule chose.
Peut-être pas la seule chose, mais
je pense que en fait, la lumière donne la lumière et l'ombre donne la lumière. Je pense qu'il n'y a pas que des galères qui permettent de nous propulser vers la lumière, mais néanmoins, on ne peut pas en faire l'impasse. Et c'est justement le domaine où je me suis spécialisée, parce que c'est vraiment ce qui faisait sens pour moi, la notion d'ombre ou de blessure. Et donc, si tu veux, dans la logique, si aujourd'hui, alors là, c'était, on va dire, l'ordre chronologique. Je décide de m'incarner pour œuvrer à la liberté, donc je dois m'incarner dans un moule de départ où je vais être victime d'enfermement. Mais à la place d'enfermement, on peut mettre mensonge, trahison, féminin bafoué, tout ce qu'on veut qui correspond à des souffrances que j'appelle des blessures archétypales.
D'accord.
Mmh. Et si on n'a pas encore transmuté nos blessures, c'est-à-dire aller chercher les opposés lumineux qui leur correspondent, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans notre juste voie. Et à ce moment-là, on va avoir des alliés qui vont nous prévenir qu'on n'est pas dans notre juste voie. Et je les appelle des grands méchants loups, parce que ils vont nous faire des crocs en jambes, ils vont nous titiller pour qu'on y aille dans notre juste voie. Et donc, nos empêcheurs de tourner en rond, là, les méchants, les bourreaux, tout ce qui nous embête dans la vie, en fait, nous renvoient en miroir une blessure qui rayonne dans sa version ombre parce qu'elle n'est pas transmutée dans sa version lumière. Si, par exemple, j'ai une blessure de mensonge et qui n'est pas transmutée dans sa version lumière opposée, donc par exemple, c'est la vérité, le vrai, le naturel, l'authentique, qui est un des ingrédients de ma mission de vie. Oui. Il peut prendre plein de formes. Hein. Mm-hmm, mm-hmm. Eh bien, je vais être confrontée à des mensonges de plus en plus gros pour que je prenne conscience que je ne suis pas dans ma vérité qui est devenue la vérité.
J'ai pas bien compris.
C'est ma vérité.
D'accord.
Si j'ai une blessure de mensonge que je n'ai pas transformée en talent et en moteur vers la vérité, je vais être confrontée à des mensonges de plus en plus gros pour mieux me montrer que je dois aller vers la vérité qui peut être ma vérité.
Alors, par exemple, tu vois, cette période où on nous ment dans tous les sens, du coup, ça déclenche chez nous un désir et une quête éperdue de vérité. Et donc, on a soif de vérité, pourtant, elle nous est cachée. Et on est tous. Mais en tout cas, il y a des journalistes qui enquêtent, qui essayent de découvrir les coulisses, les racines, pour que tout soit révélé, en fait. On est en plein dans cette période-là. C'est intéressant.
Exactement. On est dans la période de l'apocalypse l'apocalypse au sens littéral du terme, c'est-à-dire lever du voile, révélation, c'est-à-dire la vérité qui se révèle, qui était dans les coulisses. Caché.
Alors Charlotte, c'est vraiment passionnant, mais j'aimerais qu'on avance un petit peu. J'ai vu que tu faisais du coaching. Alors de quelle manière tu vas faire ce coaching, d'une part, et tu fais du coaching aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Comment on arrive du Tao aux entreprises en étant politiquement correct?
Mais les entreprises sont en train de se transformer en même temps que les personnes sont en train de se transformer.
Surtout que tu parles de COMEX, de CODIR. Alors, je suis allée voir les définitions parce que je savais pas que c'était des réunions dictatoriales, de directeurs, etc. Donc c'est quand même très très affirmé comme discours. On voit des vidéos sur tes sites. D'ailleurs, je vais les en parler de ces sites. Il y en a un qui est super, qui est, enfin, ils sont super tous les deux. Il y a coaching-alchimique.com. Et il y a effetchrysalide.com. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais.
Alors, à partir de la méthodologie que j'ai créée, qui s'appelle au départ l'effet chrysalide, qui est le titre de mon premier livre, en fait, j'ai créé un outil de coaching sans savoir que je ferais du coaching, parce que moi, je cherchais, j'étais une chercheuse.
Tu as créé ta méthode pour être bien, en fait.
Pardon ?
Tu as créé ta méthode pour être bien.
Voilà, mais c'était pour moi. Je ne savais pas que ce serait un outil de coaching.
C'est souvent comme ça.
Et donc, j'ai eu la chance d'être guidée, en plus de mes expériences personnelles et de mes épreuves personnelles et de mes découvertes, d'être guidée pour mettre au point cette vraie méthodologie que j'ai commencé à esquisser tout à l'heure là et qui est vraiment très, très détaillée dans le livre. Cette méthodologie qui permet d'identifier nos domaines d'accomplissement, nos domaines de succès, notre juste place au monde par le décryptage de nos blessures et de nos épreuves actuelles qui ne sont que les rayonnements de nos blessures anciennes qu'on a oubliées ou qu'on n'a pas pris le temps de transmuter.
Alors moi j'ai une explication, je t'interromps, j'ai une explication, c'est mais quand on met les mains dans la boue, est-ce qu'on n'est pas recouvert de boue au bout d'un moment, et si je puis me permettre, et est-ce que le fait de plonger dans nos forces obscures personnelles, ça nous plombe pas et ça nous tire pas vers le bas?
Alors ça dépend comment c'est fait. Moi je passe mes journées dans le plomb et dans les ombres et dans les merdes. Mais je le fais dans le plaisir. Parce que c'est dans un but.
Oui, mais toi, tu es pas concerné, c'est pas ton ombre à toi, je veux dire.
Ah, bah oui, mais parce que moi, j'ai déjà transmuté une bonne partie de mes ombres. C'est pour ça que je peux me permettre de le faire. J'ai pas fini, parce que je pense que c'est l'histoire d'une vie, sinon plusieurs.
Ouais.
Mais en fait, tu sais, ce qu'a dit ce fameux Carl Gustav Jung aussi, c'est, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. Mais en plongeant dans notre obscurité.
Mais en se faisant aider, parce que sinon, si on plonge, on peut couler aussi.
Oui, alors c'est mieux, surtout au départ, de se faire aider. C'est un vrai chemin initiatique, cette traversée des ombres. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de le faire, et ça se comprend, parce qu'on nous a... Les ennuis, les merdes, on a envie de les fuir, on n'a pas forcément envie de mettre le nez dedans. Et pourtant, l'idée, c'est de considérer que... on est objectif, c'est-à-dire la merde, ça pue, ça sent mauvais, et c'est normal qu'on n'ait pas envie de mettre les mains dedans.
Ouais.
En revanche, si on le fait, on a une opportunité de nettoyer cette part de nous qui
mais
nous
engloutit. Mais on n'a jamais fini de nettoyer, excuse-moi, je te pousse un peu.
Nettoyer et nous purifier, hein. C'est comme si on nettoyait une piscine avec les mains, on en a plein les mains pendant un moment, mais après c'est pour avoir une eau propre. Voilà, c'est la même chose, c'est ce que disent les alchimistes. On va séparer le pur de l'impur. L'impur, c'est ce qui n'est pas nous, justement, c'est ce qui nous a englué, pour lequel il faut aller à l'inverse. Et après, l'idée, c'est de le transmuter. Donc, oui, c'est bien de se faire accompagner, et j'ai la chance de le faire.
Et puisque nous sommes le week-end, eh bien, écoutons Weekends de Freya Reading.
Thinking about the ex if I shouldn't call. You say, now I see you busy out and living my wildest of dreams with new friends, new cities. But now inside my heart wants to scream, where is the love that I knew we ignited? Darkness in me and I learned how to hide it. Made you believe that I'm happier like this. No, no, I don't really have friends. Don't go out on weekends. I don't have a lover left to hold. Friday night I'm alone, sat at the piano, thinking about the ex I shouldn't hold. I'm sipping on scones and teacups, thinking I'm drunk and somehow.
D'écouter Prayer Reading Weekends. Et nous retrouvons notre invité de ce soir. Il s'agit de Charlotte de Silgy, auteur du livre Transformer ce qui vous plombe en trésor. Vous êtes bien dans l'émission Étincelle et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin.
Donc, on peut trouver notre lumière grâce à des lumières, notamment ce que nous ont transmis de très lumineux les parents. Heureusement, ils n'ont pas transmis que des merdes et des ombres. Hein. Ils ont transmis aussi des choses très très chouettes, il y a les deux. Et aussi, il y a besoin d'aller regarder ce qui nous fait mal, non seulement pour percer l'abcès et l'enlever, mais aussi parce que ce qui nous fait mal est en lien direct avec ce qui va nous faire du bien.
Alors, je t'interromps aussi. Je voudrais comment savoir, parce que on arrive bientôt au terme de cette émission, comment tu fais dans une entreprise quand tu fais du coaching, que ce soit du coaching individuel en entreprise ou du coaching collectif, comment ça se passe?
Alors, le but du jeu pour moi, c'est de considérer que les embêtements qui nous arrivent individuellement et dans l'entreprise et dans le monde sont liés au fait qu'on n'est pas tout à fait dans notre juste voie comme il est dit dans le Tao. C'est-à-dire qu'il y a des choses de nous qui sont confinées et qu'on a peur de démasquer alors que c'est un feu sacré à découvrir. Je reprends exprès les termes du Covid et des confinements, etc., parce que c'est ça que ça nous disait.
Mais oui.
Et donc, si on n'est pas exactement sur notre juste voie, on aura des disharmonies parce qu'on ne sera pas en harmonie avec qui on est. Et donc, la façon dont je présente ça aux entreprises, c'est que si chaque salarié, et le patron évidemment, une chef d'équipe, a n'est pas en harmonie avec soi, il y aura des soucis dans l'équipe, il y aura des soucis dans l'entreprise.
Mais il y a beaucoup de petits chefs, de petits tyrans bruts, de dominants, de dominés, de proscratinateurs, c'est dur à prononcer. Il y a beaucoup de gens comme ça dans les entreprises, il y a la salaud attitude pour s'en sortir d'ailleurs. Comment tu fais pour gérer ça en coaching?
Tu poses plusieurs questions en même temps.
Mais oui, je suis curieuse.
Non, pas du tout, ça m'amuse, ça veut dire que t'es hyper passionnée et certainement passionnante. Mais j'aurais juste terminé mon raisonnement parce que ta question, elle est super intéressante et il y a un grand besoin aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, si on part du principe que les disharmonies dans l'entreprise, les sources d'échecs, les problèmes qui soient organisationnels, qui soient relationnels, qui soient liés au business, on va nous y voir des pépites parce que c'est des opportunités de transformation pour l'entreprise, pour l'équipe.
Et comment tu fais avec les personnalités dont je t'ai parlé?
Pardon?
Avec les personnalités dont je t'ai parlé, tu fais comment?
Oui, mais c'est vrai aussi parce qu'une personne qui se comporte mal, c'est certainement une personne en souffrance. Le bourreau est une personne en souffrance. Si on va bien, on n'est pas bourreau. Et si on est victime, on est aussi en souffrance et en général, l'un s'emboîte avec l'autre.
Exactement.
L'un est le miroir de l'autre. Et donc, si on fait une approche alchimique comme ça, qui consiste à regarder de près ce qui nous inquiétine et en déduire c'est quoi les talents et les moteurs, c'est-à-dire les aptitudes et les quêtes qu'on porte en soi et qui ne sont pas tout à fait déployées dans notre vie personnelle et au service de l'entreprise, eh bien on aura en merde sur en merde sur en merde.
Quel est le résultat d'un coaching avec Charlotte de Silgy? En deux mots, parce qu'on va bientôt arrêter cette émission.
Eh bien, l'objectif, c'est d'identifier son plein potentiel, son vrai domaine d'accomplissement individuel. Par le décryptage de ce qui nous incommode, on va identifier c'est quoi nos quêtes, c'est quoi nos aptitudes, et non seulement les identifier, mais aussi les utiliser. Identifier comment on peut mettre en musique pour être pleinement en harmonie avec soi. Parce que comme le suggérait Gandhi, si on est en harmonie avec soi, eh bien, on rayonnera, hein, c'est ce que dit la physique quantique hein, et d'autres sagesses anciennes, le monde est le reflet de nous. Le macrocosme est le reflet de nous.
Exactement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Exactement, c'est la table d'émeraude. Et donc, si on rayonne qu'on est en harmonie avec soi, il y aura de l'harmonie dans notre entourage.
Eh bien,
les disharmonies extérieures, comme le dit la tradition Ho'oponopono, sont le reflet de nos propres disharmonies. Si on les identifie pour trouver notre domaine d'harmonie, ça crée de l'harmonie, ça crée même de l'abondance financière, ça crée un rayonnement, ça crée la reconnaissance, ça crée beaucoup de belles choses en retour pour soi individuellement et pour les environnements dans lesquels on évolue.
Eh bien, Charlotte de Silgy, merci infiniment pour toutes ces informations qu'on a envie d'aller creuser un peu plus. N'hésitez pas à plonger dans votre ombre avec Charlotte de Silgy pour le transformer en trésor, vous appuyez dessus et vous illuminez de l'intérieur. Vos blessures sont la clé de votre destinée. C'est paru chez le Lotus et l'éléphant, transformer ce qui vous plombe en trésor. Merci beaucoup, Charlotte de Silgy. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, j'ai des petites annonces à vous faire. Tout d'abord, il est temps maintenant de réserver votre planning, puisque du 9 au 13 février prochain se tient le salon Parapsy à la Porte Champéret. Et ce sont, vous savez, le bien-être, mais aussi les arts divinatoires. Et j'y serai. Je serai sur le stand de B12. C'est un salon qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans. Donc là, ça va être vraiment une grande joie de vous rencontrer et d'aller sur le terrain. Et puis, vous pourrez me retrouver donc sur le stand de Kang sur la partie B12. Autre point, c'est pour la semaine prochaine, nous allons recevoir Eric Grange qui nous parlera de son oracle des lieux sacrés et nous racontera un petit peu ses anecdotes, ses expériences et c'est absolument magnifique, vraiment, c'est très beau. Nous allons nous quitter en musique avec mon coup de cœur, c'est One Star's a Star, c'est tiré du film, de la série plutôt de Netflix, Alice, qui est une série qui parle d'intrication quantique, d'enchevêtrement, on est en plein dedans, mais aussi une histoire d'amour, c'est très fort, très puissant. Alice, à attention à ne pas confondre avec l'autre Alice in Wonderland, c'est Alice tout simplement. Je termine cette émission comme toujours en vous disant je vous aime et à la semaine prochaine.
Oh,